Bonjour à tous. Alors moi, je suis universitaire, donc je vais user de ma liberté de parole, parce que j'ai entendu certaines choses ce matin sur lesquelles je vais revenir, et donc ne m'en voulez pas, mais je ferai ce retour d'expérience par rapport à la fois quasiment 20 ans de réflexion sur les compétences, puisque j'ai fait ma thèse il y a quasiment 20 ans aujourd'hui, sur les effets sociaux des pratiques de gestion par les compétences. Et j'ai eu la chance de piloter avec toute mon équipe une grosse étude depuis presque 18 mois, un référentiel sur les compétences pour la FNEJ, sur les compétences en management et affaires, j'en parlerai un petit peu. Et on a eu aussi l'occasion de travailler avec plusieurs OPCO à l'IAE de Caen, avec toute l'équipe, sur un référentiel des compétences dites soft, compétences 3.0, j'en parlerai également. Donc le sujet des compétences m'intéresse un petit peu depuis quelques années. Alors, et puis parallèlement aussi, je parlerai aussi de ça, on a eu la chance d'être sollicité, alors là au niveau du réseau des IAE au niveau national, par la DGCIP, pour faire les fiches RNCP, des 20 masters, des 20 mentions de gestion. Et donc, comme on a beaucoup de temps, on nous a demandé de faire ça en 3 semaines. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, j'ai organisé une présentation en 2 temps. Je vais rapidement revenir sur l'orientation compétences, très rapidement, parce que vous en avez pas mal parlé. Orientation ministère du Travail volontairement. Vous comprendrez pourquoi. Et puis ensuite, parler de la logique des blocs de compétences, plutôt en retour d'expérience par rapport à ce qu'on a fait, et la proposition concertée avec l'établissement pour vous accompagner justement dans cette lourde tâche. Alors, je voulais juste commencer par Gaston Berger. Gaston Berger, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un grand prospectiviste. Et Gaston Berger a été directeur de l'enseignement supérieur. Et il disait, quand il parlait de la vision prospective, il disait « il faut voir loin, il faut voir large, il faut analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l'homme ». Et je pense que finalement, ça correspond bien aujourd'hui, puisqu'on est quand même direction de l'enseignement supérieur, avec la DGCIP, on est bien placé aujourd'hui, finalement, à ce qu'on nous demande sur cette orientation compétences. Donc finalement, ce que Gaston Berger disait sur la prospective, on pourrait quasiment l'appliquer aujourd'hui à l'orientation compétences. Alors l'orientation compétences, c'est pas quelque chose de nouveau. On avait eu l'occasion en 99 de faire un petit bouquin avec mon directeur de thèse sur les nouveaux marchands, et on avait fait une rétrospective de cette orientation compétences, et on était parti quasiment du Moyen-Âge où le marchand vénitien allait de ville en ville vendre ses étoffes jusqu'à la grande période de la révolution industrielle où cette fois-ci on n'était pas du tout sur la compétence individuelle mais sur la compétence collective et organisationnelle. Et je pense que si aujourd'hui on a des difficultés à aborder l'orientation compétences, c'est qu'on a encore cette culture de la compétence organisationnelle et collective et pas du tout de la compétence personnelle. Et donc on voit bien que globalement depuis le choc pétrolier, depuis les années 80 à peu près, on revient dans le discours, en tout cas politique, à un recentrage sur la personne, et c'est bien toute la difficulté. Et finalement, aujourd'hui, quand on regarde la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel de Muriel Pénicaud, c'est tout simplement un recentrage sur la personne, et non pas sur l'individu, sur la personne dans sa globalité. Donc, rapidement sur cet aspect historique, alors côté ministère du Travail, volontairement, j'ai un diaporama allégé parce que je pense que le plus important, c'est le retour d'expérience. Vous aurez un diaporama avec des explications un petit peu plus précises sur ces grands personnages qui ont marqué l'histoire. Mais globalement, depuis les lois sur la formation professionnelle de Jacques Delors, en passant par les lois de modernisation sociale ou surtout le grand plan d'investissement du gouvernement 2018-2022, on est quand même bien centré sur cette idée d'une orientation compétence et surtout d'essayer d'équiper, hein, c'est bien la philosophie de la loi de septembre dernier, d'équiper les plus éloignés de l'emploi. Hein, c'est vraiment la volonté. Et finalement, ça va irriguer tout le système de formation à tel point que le mot formation n'existe plus dans la loi. On parle de développement des compétences. Donc ça veut dire qu'un établissement d'enseignement supérieur, son cœur de métier ne sera plus d'enseigner au sens historique du terme, ce sera d'accompagner le développement des compétences. Et pour moi, c'est l'accompagnement de développement de compétences potentielles qui seront réellement exprimées dans des situations professionnelles demain. Donc ça veut dire que ça remet totalement en cause, et je vous invite à revoir, si vous ne l'avez pas vu, le document qui a été sorti sur l'évolution du métier d'enseignant-chercheur. Il y a déjà des belles pistes, ça questionne vraiment notre mission première. Donc c'est vrai que c'est un véritable changement de paradigme, et cette orientation compétences, elle nous est imposée non seulement par l'évolution de la société, de l'environnement, la mise en concurrence, parce que aujourd'hui, j'avais pas entendu ce mot ce matin, mais on est quand même dans un environnement concurrentiel, c'est-à-dire que on l'a bien vu avec le décret qualité. Demain, si nos formations sont pas, en tout cas ne remplissent pas certains critères, eh bien n'importe quel public, que ce soit un étudiant en première année ou un étudiant en formation continue, un stagiaire, eh bien l'offre sera mondialisée. Et je pense que demain, notre concurrence, ça sera Alibaba. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on a envie de faire. Et la deuxième explication aussi importante, c'est que c'est également, ça correspond également à l'attente des jeunes. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parcourir le rapport suite à la saisine du Premier ministre en juillet dernier, le rapport qui a été fait entre juillet et mars 2019 sur les jeunes et l'avenir du travail. Une des grandes conclusions de ce rapport, c'est que les jeunes veulent être reconnus pour ce qu'ils sont et pas pour leur diplôme. Donc là, ça questionne aussi finalement la finalité de notre métier, ce qu'on va apporter à nos étudiants et en particulier la formation initiale. Alors finalement, la compétence est un enjeu forcément central aussi bien pour la personne, et là aussi ce qui est important, c'est qu'on voit bien que l'éducation nationale est quasiment en avance par rapport à l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire qu'on va voir arriver dans nos formations de plus en plus d'étudiants qui auront vécu cette orientation compétence, j'ai presque envie de dire, depuis l'école primaire. Donc là aussi, on voit que ces éléments-là sont à prendre en compte dans la dynamique globale. Et puis de l'autre côté, c'est une véritable révolution aussi pour les organisations. Nous, on le voit en termes de gestion des ressources humaines. Toutes les entreprises ou toutes les organisations, même publiques, ne sont pas encore dans cette orientation compétences. Ça pose énormément de difficultés. Il y a un fameux concept, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle se développe. Mais là aussi, comme elle correspond à un véritable changement de paradigme, c'est pas si facile que ça dans les organisations d'évaluer réellement les compétences de ses collaborateurs. Et pourtant, c'est quand même ce qui commence à se faire et ce qui est nécessaire. Alors j'ai rapidement mis une définition de synthèse sur la compétence. Pour bien montrer les trois dimensions, une dimension forcément personnelle, une dimension cognitive avec tout ce qui est savoir, ce qui était peut-être un peu plus notre cœur de métier hier de transmettre du savoir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet objectif uniquement. Et puis la dimension sociale aussi, d'où l'intérêt aussi de travailler sur tout ce qui est comportemental et en particulier ce qu'on appelle aussi vulgairement les soft skills. Et donc la compétence, c'est bien un savoir-faire opérationnel validé. Et là, ça rejoint bien ce qui a été dit, c'est que derrière ça, notre contrôle des connaissances tombe totalement à l'eau. On est sur une évaluation des compétences, et donc il faut se reposer des questions sur les modalités même au-delà des mots. Et donc des systèmes d'information aussi qu'on va devoir faire évoluer pour rentrer dans cette dynamique. Je vais peut-être pas développer ce tableau parce qu'il a été présenté par différents intervenants à peu de choses près. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'hier, on était vraiment sur des parcours de formation totalement fragmentés. Hier, et encore aujourd'hui, quand on regarde un CV, moi, quand je sélectionne mes étudiants en master, globalement, ils ont tous le même CV. Et donc, on était sur une logique de l'avoir. On leur dit, il faut mettre en gros, en gras, le nom de l'entreprise, le nom de vos établissements de formation, etc. Ça, c'est fini. En tout cas, bientôt fini. Il faut être sur une logique de l'être. Et aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus, la tendance, ça va être à construire et à aider nos étudiants à construire des boucles de compétences. Alors on les appelle portfolio ou autre, peu importe, mais en tout cas on sera vraiment sur des boucles de compétences. Et donc derrière, on voit bien que c'est la personnalisation, c'est des parcours à la carte, et donc ça veut dire que là aussi, raisonner en UE, je pense que demain ça disparaîtra. Il faut vraiment être dans une logique où demain j'aurai un parcours à construire et je choisirai des blocs de compétences et potentiellement dans plusieurs composantes. Donc voilà, c'est un petit peu le dessin de cette logique qui existe d'ailleurs déjà aujourd'hui dans beaucoup d'écoles, en tout cas des écoles de management, fonctionnent déjà sur ce système. Donc ça veut dire que là, il y a de la modularité, il y a du parcours personnalisé, il y a de la co-construction, et donc ça veut dire aussi en termes de moyens qu'il y a un grand rôle au moment du recrutement de bien analyser, de bien accompagner le besoin de l'étudiant à n'importe quel niveau, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, pour l'aider à construire un parcours à la carte. Et derrière, on est vraiment sur une logique de professionnalisation. Et donc forcément, Hier, l'étudiant ou le stagiaire venait chercher un diplôme. Aujourd'hui, il travaille son employabilité, ou il travaillera de plus en plus son employabilité. Et donc, on voit bien que derrière, ça va nécessiter à la fois des compétences techniques, mais aussi des compétences transversales. Alors, aujourd'hui, il y a un grand débat sur qu'est-ce qu'on met derrière transversal. Bon, nous, on a fait une proposition, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment se questionner sur les compétences techniques métiers, en fonction des différents métiers dans une formation ou dans un parcours de développement de compétences, et puis ce qui peut être transversal. Et là, je pense qu'il y a peut-être, dans la prochaine offre de l'établissement, à réfléchir sur une offre, je dirais, qui serait potentiellement à disposition pour plusieurs composantes, parce que le transversal, finalement, eh bien, ça a été présenté, hein, tous les référentiels internationaux des compétences dites soft, en tout cas convergent sur quelques grandes compétences, et puis surtout les compétences numériques, parce qu'aujourd'hui on ne se rend pas suffisamment compte qu'on est en grande fracture numérique, et même nos étudiants ne sont pas si à l'aise que ça sur le maniement des outils de base pour en tout cas évoluer dans un environnement professionnel. Donc les compétences transversales doivent forcément intégrer un bloc de compétences numériques, ce qui d'ailleurs a été fait pour les masters, je vais y revenir. Donc aujourd'hui, ça veut dire que tout ça remet forcément en cause ou en question ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart Educ, hein, c'est-à-dire l'éducation au cœur de la ville et de la cité. Et puis aussi, tout ce qui va être nouvelles technologies, hein, donc on parle de Smart Educ ou de EdTech, pour vraiment valoriser toutes les technos et toute la dynamique collaborative qui va se créer autour de la formation et du développement des compétences d'une manière générale, ou pour utiliser les mots les plus attendus aujourd'hui. Alors, ce retour d'expérience, c'est ce qui est le plus important. Premièrement, donc, une sollicitation de la DGCIP, merci, pour rédiger les 20 mentions de gestion, les 20 fiches RNCP en mentions de gestion. Donc le réseau des IAE a été sollicité, et donc quelques collègues se sont organisés, et puis certains avaient entendu parler de notre référentiel en cours, donc ils m'ont appelé au secours, et finalement on a travaillé d'une certaine façon. Je vais vous expliquer vraiment honnêtement ce qu'on a fait, et puis justement ce qu'on pourrait peut-être essayer de développer au sein de l'établissement. La première étape, ça a été de comprendre les blocs transversaux que la DGCIP, alors vous pourrez peut-être nous donner des explications, parce que moi j'ai pas tout eu, alors je sais plus s'il y a 256, vous avez dit 252, alors moi je raisonne que pour les masters. Donc la DGCIP a mis en place en tout cas 4 blocs transversaux qui sont normalement imposés à tous les masters. J'y reviendrai. Donc ces 4 blocs transversaux sont imposés à tous les masters, donc on a essayé de comprendre un petit peu comment ils avaient été construits, et puis ensuite on s'est dit, bah, on va prendre quand même, par simplicité, parce qu'au départ, on nous a dit qu'il faut remplir un tableur Excel en 3 semaines pour 20 mentions de gestion, 20 fiches RNCP. Et puis après, quand on a vu qu'on commençait un peu à travailler, ils nous ont dit, bah non, mais finalement, il faut faire toute la fiche. Et donc, on s'est dit, mais finalement, en sciences de gestion, on forme des managers. Et donc, quelles sont les compétences clés d'un manager ? Et donc, à partir de là, on a retravaillé, à partir du référentiel qu'on était en train de finaliser pour la FNEJ, sur 6 blocs de compétences, parce qu'il y en a 4 transversaux aux 250 et quelques masters. Et donc, nous, on s'est dit, bah, on va prendre 6 blocs de compétences. Donc, ça veut dire que les 20 mentions de gestion, les 20 fichiers RNCP des mentions de gestion, sont composés de 10 blocs de compétences. Et on a essayé de faire un travail harmonisé parallèle pour essayer de gagner du temps, parce que là le temps était vraiment vraiment compté. On a fait un test sur le master RH, parce que au sein de l'équipe nationale on était plusieurs à être responsables de master RH, et ensuite on est parti sur la rédaction globalement. Je crois qu'on a terminé fin juin, début juillet à peu près. Donc ça a été piloté par Laurence Macaluso au sein du réseau des IAE, et puis moi-même, hein, j'irais en tant que voilà sur la dynamique un peu compétences, et puis les collègues à la fois de La Réunion, de Brest, de Strasbourg et de l'IAE de Lille. Alors on est parti de notre référentiel, hein, vous l'aurez, il est diffusé là depuis une bonne dizaine de jours maintenant. Ce référentiel, on l'a fait alors pour le ministère aussi, pour ONEJ, donc l'Université Numérique Éco-Gestion. On l'a dédié à notre collègue Thierry Garot, qui est malheureusement décédé en début d'année et qui nous avait impulsé en tout cas cette dynamique de vouloir faire un e-book sur les métiers de gestion. Et en réfléchissant sur les métiers de gestion, on s'est dit, bah non, on va pas faire un e-book sur les métiers de gestion, puisqu'il y a déjà plein de choses qui existent sur les métiers de gestion et que finalement les métiers se transforment beaucoup plus. Donc ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est d'essayer de travailler sur les compétences transversales à tous les métiers de gestion. Et puis ça a été porté par la FNEJ et normalement on devrait continuer parce que c'était finalement au cours de ce projet, la commande c'était informelle, c'était quand même de faire une plateforme d'orientation pour les jeunes sur les métiers dits de gestion. Et donc là on va voir si on continue sur une plateforme d'orientation associée à ce référentiel. Et en parallèle, comme je vous l'ai dit, en janvier, on a été sollicité aussi, le premier semestre a été très chaud à l'IAE, on a été sollicité par Syncopca pour faire un projet expérimental pour accompagner 30 demandeurs d'emploi en région parisienne sur des formations. Alors, pour nous, c'était la commande, c'était des formations plutôt soft. Et puis, il y avait l'école du numérique Simplon qui les formait sur des compétences de base en numérique. Et donc, là aussi, on a créé 4 grands blocs de compétences sur les compétences dites soft. La connaissance de moi, avec 5 compétences associées. L'appréhension du monde du travail, moi et les autres, et moi au travail. Et les 20 compétences, en fait, la souplesse cognitive, la curiosité, la pensée critique, etc. Les 20 compétences, on les a construites sur un référentiel type RNCP avec justement des preuves de compétences et on est allé jusqu'à des badges de compétences. Donc là, ça signifie qu'aujourd'hui, l'établissement peut profiter de ce référentiel, pourquoi pas l'adapter et surtout badger ses compétences, ce qui a été très apprécié en tout cas dans ce projet. Et aujourd'hui, on a même des demandes à l'international pour diffuser cet outil et ce référentiel. Donc en partant de tous ces éléments, donc on a construit les fiches RNCP, donc pour vous dire concrètement comment ça s'est passé entre globalement fin avril et puis fin juin. Donc d'abord on a essayé de comprendre les 4 blocs transversaux aux 250 et quelques masters. Alors là déjà je me suis accrochée avec la DGCIP parce que pour moi un bloc de compétences c'est un ensemble de compétences. Comme les compétences commencent par des verbes d'action, si c'est un ensemble, je pense que normalement un bloc de compétences devrait commencer par un verbe d'action. Mais on m'a dit non, vous n'utilisez pas de verbe d'action. J'ai essayé de négocier, j'ai pas réussi. Et puis deuxièmement, quand on a regardé au niveau du réseau des IAE les appellations, on s'est dit c'est très bien, c'est transversal à tous les masters, mais quand on regarde l'intitulé des blocs, puisque vous avez bien compris que potentiellement demain, une entreprise qui voudrait former des cadres, par exemple, ne peut acheter que certains blocs. Moi, je me vois très mal dire à un DRH, je vous vends un bloc sur la mobilisation des savoirs hautement spécifiques. Donc, j'ai essayé de négocier une nouvelle appellation, un peu plus sexy, j'ai pas réussi. Donc, c'est pour ça que c'est entre parenthèses, j'ai marqué « voir pour négocier l'appellation ». Par contre, quand on regarde le contenu, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le premier, c'est ce que j'ai dit, c'est les usages du numérique. Donc là, ça veut dire que dans tous les masters, il va falloir intégrer des enseignements sur le numérique et ou valider des compétences. Parce qu'il y a un point important, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure sur ce qu'est une action de formation au sens de la loi aujourd'hui, c'est-à-dire une action de développement des compétences. Et donc, si vous avez de l'apprentissage, bah, une partie du bloc peut être justement l'évaluation de la compétence en formation, en situation professionnelle, et en particulier au travers de la FEST, la formation en situation de travail. Donc là, ça redessine aussi le contenu de nos formations et l'articulation potentiellement avec les acteurs avec lesquels on peut travailler. Donc premier bloc, qui doit être normalement dans tous les masters aujourd'hui, le numérique. Deuxième bloc, développement et intégration de savoirs hautement spécifiques. Donc là, on essaie quand même de ranger des choses. Nous, au niveau du réseau des IAE, on a mis tout ce qui était projet, études, etc., parce qu'on arrive quand même à valoriser certaines choses. Mais c'est très intéressant d'avoir quand même cette réflexion sur à la fois l'expertise d'un domaine, en fonction du sujet, hein, et puis la capacité à avoir une analyse réflexive sur un sujet, etc. Mais bon, le titre est un peu étrange, mais en tout cas, le contenu est intéressant. Le troisième est là aussi très intéressant parce que il est sur la communication. Et donc là, je crois qu'aujourd'hui, et on le voit bien dans les référentiels transversaux, tous les référentiels internationaux mettent l'accent sur la capacité à communiquer oralement ou à l'écrit. Et donc là, c'est vraiment important aussi qu'il y ait tout ce travail sur la capacité à faire des vidéos, à faire des pitchs, etc., ou à présenter, à faire une présentation en fonction de son domaine d'expertise. Et le quatrième, alors on a été très perturbés au niveau du réseau des IAE parce que ça s'appelle « Appui à la transformation en contexte professionnel ». Et quand on a commencé à lire ce que ça signifiait, on s'est dit « Mais finalement, nos 20 masters de gestion rentrent dedans ». Donc on s'est dit, bah, comment on va faire? Et puis finalement, on s'est dit, non, là, on va mettre plutôt certains éléments de, là aussi, d'études professionnelles ou de projets ou de cas très pratiques ou d'enseignement sur le projet, par exemple, conduite de projet. Ça remet pas en cause finalement la vraie réflexion sur le cœur de métier du manager. Donc ça veut dire que pour tous les masters, ces quatre blocs sont obligatoires. Alors je ne sais pas à ce jour, à date, combien de fichiers RNCP sont présentés en blocs de compétences, mais je sais que avant l'été, on était à peu près à une cinquantaine sur les 250, dont les 20 du réseau des IAE. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 30 masters qui étaient en bloc de compétences, toutes disciplines confondues, en dehors de la gestion. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire sur la transformation des fichiers RNCP en bloc de compétences. Et j'ai presque envie de dire aussi en peut-être en relecture. Après, bon, voilà, ça a été validé par France Compétences, mais il y a peut-être aussi de la relecture à avoir et peut-être de l'harmonisation. Je sais pas. Après, faudra voir avec France Compétences ce qu'ils veulent vraiment faire pour qu'il y ait quand même une cohérence globale. Alors, ayant pris connaissance de ces quatre blocs, nous sommes dit donc, comme je le disais tout à l'heure, quelles sont les compétences d'un manager? Et donc là, nous, on a raisonné Master 1, Master 2. On s'est dit, un manager qui soit en finance, en RH, en logistique, en supply chain, etc., de toute façon, il doit réfléchir et ou élaborer la stratégie. Donc, il va avoir une pensée stratégique ou participer à cette réflexion stratégique. Ensuite, il doit concevoir et piloter des solutions de gestion, dimension un peu plus opérationnelle. Ensuite, il doit avoir des compétences aussi dans tout ce qui a trait à la mesure et au contrôle des outils et méthodes de gestion, hein, que ce soit en finance ou autre. Alors là, vous voyez bien qu'on n'a pas mis des verbes d'action puisqu'on a suivi les instructions du ministère. Le bloc 4, les règles, normes et qualités. Donc ça nous a permis, en fonction des spécialités, d'intégrer tout ce qui était juridique, normatif et aussi la dimension qualité. Et puis ensuite, on s'est dit, bah forcément, un manager, il a aussi des compétences, une culture managériale et organisationnelle. Et on a ajouté volontairement tout ce qui était comportement et posture au travail pour vraiment avoir intégré la dimension soft skills ou compétences transversales au sens comportemental. Donc là, ça nous a permis donc d'avoir ces 6 blocs et puis, à l'image de ce qui avait été fait pour les blocs transversaux, de les traduire et volontairement de les traduire avec 2 ou 3 compétences clés, mais vraiment très succinctes. Pourquoi ? Pour laisser la liberté aux collègues ensuite, dans leur maquette, de personnaliser finalement leur programme de formation. Donc là, on l'a testé sur exemple... Sur un master X, réflexion, élaboration de la stratégie en marketing, en finance, en management public, etc. C'est-à-dire que nos 20 fiches RNCP sont totalement parallèles. Hein, elles sont vraiment faites en symétrie. Alors c'était à la fois parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais c'était aussi parce que finalement on avait trouvé une cohérence, on avait trouvé un fil conducteur sur finalement la philosophie des masters de gestion. Et une fois qu'on a fait ça, c'est déjà une grande étape. Certains sont peut-être avancés, mais après, ce qui signifie, qu'est-ce que ça signifie concrètement dans les enseignements. Et donc là, quels sont les intitulés de cours en Master 1 et en Master 2. Et c'est là que, quand on est en création de formation de diplôme, c'est assez facile. Mais après, quand on hérite de formations existantes, eh bien, c'est comment on va maquiller, comment on va faire du bricolage pour essayer de faire rentrer des UE entièrement ou en partie, faire le tableau croisé ou pas, etc. Et puis se dire, mais finalement, si une entreprise a envie d'acheter ce bloc, il faut pas que ce soit sur 2 ans, il faut que ce soit que sur 1 an, ou alors je mets des niveaux. Et puis, il faut pas que ce soit sur une période trop longue, parce qu'elle a peut-être envie de former ses collaborateurs sur 2 mois. Ça pose énormément de questions qui, à mon avis... Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas d'urgence. Pour moi, il y a une urgence. C'est absolument de faire un alignement bricolé entre les fichiers RNCP, si elles existent, ou de faire les fichiers RNCP, ou de participer à des réflexions nationales pour finaliser au plus vite les fichiers RNCP, et de faire du maquillage sur les maquettes. Ça, il y a urgence, parce qu'autrement, il n'y a pas de financement. Donc derrière, une entreprise qui vient regarder une maquette de formation et qui regarde la fiche RNCP si elle existe, il va dire, oui, mais c'est bizarre, ça correspond, je ne m'y retrouve pas trop. Donc il y a un effort de traduction, et ça, c'est l'urgence. Par contre, il y a un travail de fond à faire, et là, on est en bon timing, à mon avis, par rapport à la prochaine offre, de se dire... Quelle décision on prend? Et là, je pense qu'on est expérimenté. Les universités aujourd'hui, en tout cas dans le monde universitaire, Vous avez bien vu que vous avez posé plein de questions, il n'y a pas vraiment de réponse. Donc là, je pense qu'il faut proposer des choses, expérimenter des choses, pour se dire, ben voilà, est-ce qu'un bloc, entre guillemets, redessiné, retravaillé avec la vraie philosophie, c'est finalement une ancienne UE que je redessine totalement, et du coup, un bloc égale une UE. Moi, je pense que ce serait vraiment facilité de faire ça. Et peut-être un niveau Master 1, Master 2, pourquoi pas, et même faire une progression. Et si on le vend en formation continue, ça peut faire justement deux produits différents. Après, se pose la question du multimodal et du transversal et de l'intercomposante. Parce que je pense qu'à terme, on aura peut-être des masters avec des intitulés un peu génériques et une personnalisation de l'intitulé en fonction du parcours de la personne, plutôt en formation continue, ça. Peut-être. Et encore, quoique. Parce que quand on voit les business schools, elles sont déjà un peu sur ces modèles-là. Donc ça veut dire que demain, j'aurai peut-être un master de l'université de Caen, mais finalement, je construirai mon parcours à la carte entre 4 ou 5 composantes. Donc là, après, il y a un système d'information à mettre en place, il y a la coordination inter-composante à organiser, etc. Bon, voilà, ça c'est l'avenir qui nous attend. Mais bon. Donc, la proposition qu'on veut vous faire... au regard des enjeux, on a réfléchi avec l'équipe de direction et on s'est dit, il faut avancer, il faut être accompagné, on n'a pas beaucoup de moyens, on a de la main d'œuvre qui coûte pas très cher parce que elle est en alternance ou en formation continue. Donc la proposition malhonnête qu'on a envie de vous faire, c'est de vous dire, on a à peu près 60 masters environ à l'université, j'ai à peu près 60 étudiants disponibles. Entre le Master 1, Master 2 en alternance et le DU métier de la formation et du développement des compétences. Donc l'idée, ce serait de vous accompagner, donc peut-être dans un premier temps avec une base de volontaires, de dire chaque responsable de Master qui veut vraiment commencer à cogiter, etc. Moi, je l'ai vendu en tout cas comme projet à mes étudiants, donc de toute façon, certains Masters vont être travaillés par les étudiants. Entre soit la fiche RNCP existe et on travaille sur l'alignement de la maquette et la réflexion peut-être pour la prochaine maquette, soit la fiche RNCP n'existe pas et on regarde au niveau national s'il y a une dynamique sur le sujet ou pas, et à ce moment-là, bah, il y aura à la fois une proposition peut-être de fiche RNCP et l'alignement sur la maquette. Mes étudiants commencent, en tout cas sont disponibles à partir du mois d'octobre, le 14, ils reviennent en cours. Donc je leur ai dit qu'à ce moment-là, je leur donnerai plus de précisions sur l'ampleur du projet. Et on s'est dit, par rapport à l'auto-évaluation, que d'ici mars 2020, ça pourrait être un timing intéressant pour travailler. En termes d'encadrement, j'ai toujours mes deux binômes, Mohamed Tissioui et Sébastien, qui doit être en visio, pour me seconder, entre guillemets, ou en tout cas même influencer toute la démarche. Et surtout aussi l'équipe du CEMU, qui s'est portée vraiment volontaire dans cette aventure, parce que je crois que toute la réflexion technico-pédagogique est vraiment indispensable. Jérôme, ne récolte pas, tu vas encore me subir. Est vraiment indispensable pour réfléchir à toutes les nouvelles modalités pédagogiques, parce que derrière, c'est vraiment réfléchir sur... C'est, nous, en tout cas, en termes de recherche en RH, on dit que c'est un vrai changement de paradigme. Donc derrière, je forme des étudiants sur tel sujet, quelles sont les 5 ou 10 compétences ou méta-compétences clés que normalement qu'ils devraient avoir, et ça, je ne peux pas le décider, moi tout seul RP ou moi tout seul enseignant. C'est avec l'écosystème professionnel. Et donc c'est là aussi, c'est intéressant de travailler avec les branches professionnelles, de travailler avec les entreprises, les syndicats professionnels, etc. Nous, on a eu la chance, au niveau du réseau des IAE, on avait travaillé depuis 18 mois avec le terrain. Donc on avait forcément cette remontée du terrain pour faciliter notre travail en quelques mois. Mais quand on n'a pas fait ce travail avec le terrain, je pense qu'il faut vraiment associer aussi, et là ce sera le travail des étudiants, de vous proposer, et nous on sera derrière, de vraiment associer aussi en fonction de vos domaines d'expertise, des experts métiers, pour vraiment avoir une vision non seulement d'aujourd'hui, mais à échéance au moins 3-4 ans de la transformation des compétences dans tel ou tel métier. Et sachez qu'aujourd'hui, en matière RH, on commence de plus en plus dans les entreprises à recruter des compétences et non plus pour un métier bien précis. On cherche plutôt un profil avec un portefeuille de compétences que dire je cherche un comptable ou un financier ou un RH. Donc voilà la proposition qu'on a travaillée avec l'équipe de direction et en particulier Pierre. Donc je suis à votre disposition avec l'équipe et puis avec le CEMU pour peut-être prendre dans un premier temps quelques volontaires et puis après on fera une proposition plus généralisée pour que tous les étudiants soient occupés. Alors soit tout le monde ne joue pas le jeu et puis les étudiants travaillent plus en profondeur avec certains, soit tout le monde joue le jeu et à peu de choses près il nous manquera peut-être quelques étudiants, mais on verra comment on s'organise. Je vous remercie.
Merci beaucoup Aline pour cette présentation et la proposition donc concertée effectivement avec la direction. Ce que je voudrais essayer de vous faire passer comme message, c'est plus quelque chose de rassurant que de terrifiant. Bien sûr, les changements culturels sont importants. Bien sûr, l'université, l'enseignement supérieur se retrouve avec des problématiques difficiles à aborder, nouvelles, et dont on sent bien qu'elles sont essentielles. Mais ce que je voudrais que vous ayez en tête, c'est qu'on ne va pas basculer la table et tout faire voler en éclats. On va avancer avec nos forces et ce qu'on sait faire. Et on a plein de bonnes raisons de penser qu'ici, à l'Université de Caen-Normandie, on a des compétences, des services efficaces, des propositions intéressantes qui sont faites. Bref, je pense qu'on a en nous les ressources pour arriver à passer la vague. Et ce n'est pas qu'une vague, c'est être sur une dynamique tout à fait intéressante d'un point de vue de ce qu'on fait avec nos étudiants, de la pédagogie et de ce qu'ils attendent de nous. Donc voilà, faut pas ressortir de cet amphi en pensant que la marche est trop haute, la pente va être douce, parce qu'on y va collectivement et qu'on est accompagné et qu'on a des compétences dans l'établissement qui sont absolument indéniables.